Dans le livre de Job, au chapitre 14, verset 14, il est écrit « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. » Si l'homme, une fois mort, pourrait revivre. C'est incroyable ça, hein ? On est très loin dans le passé, hein, dans le début de l'humanité, et c'est le cri d'un homme qui, oh là là, si, voilà, il avait vu la mort lui, hein, il a vu ses enfants, tous ses enfants. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, si seulement c'était possible. Job est mort physiquement et il va ressusciter, il va retrouver la vie, hein. Parce que quelqu'un a triomphé de la mort. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons dans la résurrection. Il faut savoir que la résurrection, c'est vraiment la clé de voûte, hein. C'est très important de tout le christianisme. C'est sur elle aussi que repose toute la foi chrétienne, la résurrection. Vous enlevez la résurrection et l'édifice s'effondre. Soit Jésus-Christ est vraiment ressuscité et nous ressusciterons aussi, soit il n'est pas ressuscité. Et dans ce cas, eh bien, pas de résurrection pour personne. C'est ce que Paul avait dit en 1 Corinthiens 15. Je vous cite quelques paroles qu'il a dit. Il a dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Le fait qu'on soit réunis ici, que je suis en train de vous parler de Jésus-Christ ressuscité, ben, ça n'a aucun sens. » S'il n'est pas ressuscité, on est complètement en train de se tromper et c'est ridicule d'être ici. Paul ajoute, il dit, s'il n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Nous croirions, nous nous réunirions, nous prions, nous lirions la Bible pour rien en fait. Ça n'a pas de sens. Il continue, il dit, s'il n'est pas ressuscité, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. On devient même des personnes qui témoignent contre Dieu. On est en train de dire une chose que Dieu aurait faite, qu'il n'a pas fait. On se rend coupable en fait. Hein, c'est une fausse doctrine. Si on dit il est ressuscité alors que ce n'était pas vrai. Et Paul ajoute, il dit si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et c'est vrai. Hein, puisque c'est notre espérance, c'est notre joie, on est plein de paix à l'idée que ça y est, on va ressusciter un jour avec notre Seigneur et il nous a devancés. Mais si c'est pas vrai, mais c'est pathétique. C'est une espérance trompeuse, hein, qui n'aurait jamais lieu. La résurrection, c'est vraiment la clé de voûte du christianisme. Alors bien sûr, la mort de Christ, elle est très importante, hein. Sans sa mort, on l'a dit ce matin, plusieurs l'ont dit, il n'y a pas de pardon. Mais sans la résurrection, eh bien, il n'y a pas de vie éternelle. Puisque c'est la résurrection, hein, qui nous conduit aussi dans l'éternité. Sans la résurrection, la vie de Christ ne pourrait pas nous être donnée. Certes, on peut avoir le pardon, mais on n'a pas la vie. La vie vient de la résurrection. Il ne faut jamais oublier que la vie de Christ nous vient de sa résurrection. Une fois relevé de la tombe, c'est là où il nous a communiqué sa vie, il nous l'a donnée. Et c'est parce qu'il est ressuscité et qu'il est remonté au ciel qu'alors il nous a envoyé le Saint-Esprit. S'il n'était pas remonté, eh bien on n'aurait pas le Saint-Esprit. Et Paul finit, il conclut en 1 Corinthiens 15, il dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. » C'est certain, il est les prémices de ceux qui sont morts. Il nous a devancés, il est ressuscité. Et nous aussi, c'est certain, nous ressusciterons. Maintenant, est-ce qu'il y a des preuves de la résurrection ? Alors, il y a suffisamment de choses qui nous permettent de dire « Mais oui, il est vraiment ressuscité. » D'abord, on peut dire « Jésus-Christ est un personnage historique. » C'est une évidence, c'est un personnage historique. Et avant de parler de la résurrection en elle-même, eh bien on peut voir d'abord que, bien sûr, Jésus a existé. Ça, c'est un fait qui est inattaquable. Et si aujourd'hui quelqu'un dit « Oh, mais non, Jésus n'a pas existé, c'est une légende, c'est un mythe », il va passer vraiment pour un idiot. Parce que c'est une réalité, il y a suffisamment de personnes, d'historiens, qui parlent de Jésus. Alors, je vais vous en citer plusieurs. D'abord, il y a Flavius Joseph. Donc, il a écrit les Antiquités juives. Alors, je sais que certains passages des Antiquités juives ont été controversés. Les historiens ont tous un peu leur avis sur l'histoire et donc remettent en question certaines choses. Mais j'aimerais vous lire un passage qui n'est pas controversé. C'est-à-dire, même les sceptiques reconnaissent que, eh bien, ça vient vraiment de Flavius Joseph. Donc, c'est une copie qui a été transmise par les Arabes et dont le contenu est donc accepté même par tous les sceptiques. Il est dit, donc c'est Flavius qui écrit, « En ce temps-là, vivait un homme sage qui s'appelait Jésus. Il avait une conduite irréprochable et il était connu comme un homme vertueux. Et beaucoup de gens parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié à mourir. Ceux qui devinrent ses disciples ne cessèrent pas de suivre son enseignement. Ils rapportèrent qu'il leur était apparu le troisième jour après sa crucifixion et qu'il était vivant. À ce propos, il était peut-être le Messie dont les prophètes avaient rapporté les merveilles. » Donc là, on voit Flavius, il ne fait pas allusion à un être imaginaire. Il dit qu'il était irréprochable, il était vertueux. Il fut crucifié et puis ses disciples, eh bien, disaient ouvertement, nous l'avons vu ressuscité. Un autre historien, c'est Tacite, historien romain, gouverneur en Asie. Il rapporte dans ses annales, il dit, quel que fût le soulagement apporté par un homme ou les bontés qu'un prince puisse apporter ou les sacrifices d'expiation que l'on pourrait présenter aux dieux, rien n'aurait soulagé Néron de l'infamie des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il aurait lui-même ordonné cette conflagration, c'est-à-dire l'incendie de Rome. C'est pourquoi, pour faire cesser ces rumeurs, il accusa les chrétiens qui étaient haïs pour leur énormité, les chargea de cette culpabilité et les punit par toutes sortes de tortures affreuses. Christus, qui était le nom de leur fondateur, fut mis à mort par Ponce Pilate, procureur de Judée sous le règne de Tibère. Mais la superstition pernicieuse qui fut réprimée pour un temps éclata de nouveau, pas seulement en Judée où le méfait tenait ses origines, mais aussi dans la cité de Rome. Là aussi, Tacite, il cite Christ, c'est évident, qui a été crucifié. Dans la même période, fin du 1er siècle, il y a un autre personnage qui en parle, c'est Pline le Jeune. Donc c'était un sénateur, un haut fonctionnaire sous l'empereur Trajan. Il maintient donc avec l'empereur une correspondance épistolaire, ils s'écrivent, et dans l'une de ses lettres, il demande conseil à l'empereur au sujet des chrétiens. Alors sa question est résumée, il dit « Comment dois-je châtier les chrétiens s'ils continuent à rendre un culte à Jésus-Christ ?» Une évidence. Est-ce qu'il faut tous les châtier de la même manière? Voilà sa question. Un autre historien romain qui écrivit vers 120 après Jésus-Christ, c'est Suétone. Il dit « Comme les Juifs créaient de constantes perturbations à cause de Crestus, l'empereur les chassa de Rome. » Crestus, c'est bien sûr Jésus-Christ. Et on pourrait comme ça citer, il y a plein d'allusions à Jésus-Christ par toutes sortes d'hommes, j'en ai toute une liste, Épictète, Lucien, Galien, Aristide, Lampridius, Dion Cassius, Inerius, Libanius, Amanius, Marcellin, Eunape, Sosime, voilà, plein de personnes qui ont cité Jésus-Christ. Même certains ont écrit des livres entiers. Lucien, Cels, Porphyre, Hiéroclès, Julien, même des Juifs ont écrit sur Christ. Donc, c'est une évidence. Jésus-Christ a vraiment existé, il était sur la terre, il a vraiment été crucifié. Ça, c'est une évidence. Maintenant, si on regarde aussi un lieu qui correspondrait à la description de la Bible, à Jérusalem, un endroit où il aurait été crucifié et où il serait ressuscité, eh bien, on trouve aussi quelque chose qui correspond. Alors, bien sûr, 2000 ans après, c'est difficile de dire « c'était la tombe de Jésus-Christ ». Certains le disent, c'est celle-là et pas une autre. On n'est pas sûr à 100%. Et je crois aussi que Dieu nous préserve et préserve les hommes de faire d'un lieu ou d'un objet un lieu d'adoration, en fait, un culte, pour rendre un culte. Donc, on n'est pas sûr absolument d'un tombeau. Mais c'est très touchant de voir un lieu appelé « lieu du crâne » ou « Golgotha », qui a effectivement la forme d'un crâne. Et puis, de voir aussi que c'est un endroit qui pouvait recueillir trois crucifiés en haut. C'est aussi touchant quand l'archéologie découvre qu'il y avait des citernes, qu'il y avait des pressoirs. Ça signifie qu'il y avait des jardins. Et puis, la Bible nous dit qu'il a été crucifié à proximité d'un jardin où il y avait une tombe. On trouve aussi plusieurs tombes, il n'y en a pas qu'une, on trouve plusieurs tombes, dont certaines qui ont été très très bien conservées et qui s'apparentent à ce que ça pouvait être, c'est-à-dire une tombe creusée dans la roche, un tombeau pour un riche. Et puis on trouve aussi donc ce lieu qui est hors de la porte, c'est-à-dire hors de Jérusalem, et qui cadre encore une fois bien comme il faut avec la Bible. Donc il y a plein d'éléments qui permettent de dire, ben oui, c'était là, ici, quelque part. Maintenant, ça n'empêche pas que le fait de la résurrection, ça reste un problème pour beaucoup. Comment on peut croire quelque chose qu'on n'a pas vu de ses propres yeux ? Alors si l'existence de Jésus et même la crucifixion, elle est quand même acceptée par des gens qui ne croient pas forcément en Dieu, ils le reconnaissent. Mais la résurrection, c'est quand même dur à avaler quand même. Hein. Alors beaucoup ont essayé de réfuter la résurrection. On a cherché plein d'arguments pour essayer de la nier. D'abord on s'est dit, les disciples ont pu voler le corps. Est-ce qu'ils auraient pu le faire ? Ça voudrait dire qu'ils ont été suffisamment malins et perspicaces pour monter un plan et faire croire en une résurrection qui n'a en fait jamais eu lieu. Alors d'abord, il faudrait prendre en compte que le tombeau était gardé par des soldats, les soldats de Rome qui étaient armés. On sait que Rome n'était pas tendre avec ses soldats. Si jamais ils n'accomplissaient pas leur mission, c'était le supplice. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Ils ont été emmenés au supplice parce que le corps avait disparu. Ensuite, le tombeau était fermé par une grosse pierre. Donc, c'était quand même pas quelque chose de simple que de rouler cette pierre de plusieurs tonnes avec ces soldats qui étaient autour. Ensuite, le sceau était scellé par un sceau, le sceau de Rome. Ça veut dire que c'est la garantie, c'est Rome qui s'engage et qui dit « nous le gardons ». Donc, c'était aller à l'encontre de Rome, de voler le corps. Et puis enfin, si on regarde les disciples, on voit que c'était quand même des personnes qui étaient apeurées. Il faut se souvenir de l'arrestation de Jésus. Ils se sont tous enfuis. Ils ont tous fui en courant. Ils se sont enfermés dans leur maison. Et Pierre, qui a peut-être eu un peu plus d'audace sur le coup, qui s'est mis à suivre Jésus, il a renié. Il a renié tellement il avait peur, hein. Alors comment un groupe d'hommes si faibles, de femmes si faibles, devant Rome, aurait pu déjouer les gardes, subtiliser le corps et faire croire en la résurrection? Il y a un théologien écossais qui s'appelle Hill, qui après avoir étudié le sujet de la résurrection, il a fait une déclaration qui est pleine de sens et pertinente. Il dit « Mais si... malgré toutes les preuves, vous rejetez le témoignage, il vous faut expliquer toute une foule d'absurdités. 12 hommes de basse extraction, sans éducation, et dont le mode de vie interdisait toute ambition, auraient mis au point, sans être aidés par le gouvernement, le projet le plus noble que l'homme ait jamais conçu, employé les moyens les plus audacieux pour le mettre à exécution, et l'aurait mené à bien avec tant d'habileté que l'imposture revêtit les traits de la simplicité et de la vertu. Ces hommes se seraient rendus coupables de blasphème et de tromperie, unis dans une même machination rusée, qui s'avéra être le meilleur moyen de rendre l'homme bon. Ils auraient conçu ce projet singulier sans rechercher le moindre avantage personnel, indifférents aux risques, mais conscients de leurs actes. Bien que chacun connaissait l'infamie de l'autre, aucun n'aurait songé à la dévoiler pour se protéger lui-même. Et au milieu des pires souffrances physiques, ils seraient restés fidèles à leurs mensonges qui devaient apporter au monde piété, honnêteté et bonté. En vérité, l'homme qui accepte tout cela n'a pas le droit de dire que les miracles n'existent pas. C'est clair, si c'était tout un mensonge et toute une machination, eh bien, c'est incroyable. Hein, incroyable. Puisqu'aujourd'hui, nous croyons en la résurrection. 2 millénaires plus tard, eh bien, elle continue à changer des vies. Alors on s'est dit, mais peut-être Jésus n'était pas mort. En fait, évanoui ou dans un coma léger, on l'a mis au tombeau, etc. Et puis ce serait relevé. Alors peut-être on peut lire, je vous lis dans Jean 19, les versets 31 à 34. Jean 19, versets 31 à 34. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors pourquoi du sang, pourquoi de l'eau sont sortis du côté de Jésus? Alors il semble qu'il y ait plusieurs raisons qui soient possibles pour qu'il y ait de l'eau finalement dans les poumons et qui coule. Mais d'après le témoignage de médecins, la raison principale c'est un arrêt du cœur. Et une pression en fait, comme il y a plus le cœur qui pompe, il y a une pression qui se forme, et c'est cette pression excessive sur les veines pulmonaires qui aurait produit finalement un liquide qui s'apparente à de l'eau. Donc si on regarde médicalement et physiologiquement, il est mort, il ne pouvait qu'être mort, c'est certain. Sans oublier qu'auparavant, il a été battu, il a été fouetté. C'était pas quelqu'un en plein de vie qui a été mis en croix. C'était quelqu'un qui avait déjà été brisé et qui avait été déjà battu toute la nuit. Il est resté 6 heures sur la croix. Et puis aussi, les soldats qui étaient chargés de briser normalement les jambes aux suppliciés, eh bien, ils savaient bien quand quelqu'un était mort. Ils étaient habitués à cela. Et pour lui, c'était évident, il était mort. Le coup de lance ne faisait que le confirmer. Puis on l'a mis 3 jours au tombeau, et quand bien même il se serait évanoui, imaginons quelque chose qui semble impossible selon cette description, mais admettons, comment il aurait pu se relever sanglant, affaibli, rouler une pierre de plusieurs tonnes de l'intérieur, sans prise, sortir et se présenter plein de vie et de force à ses disciples. C'est pas raisonnable. D'autres ont dit que les femmes venues voir la tombe, peut-être se sont trompées de tombe. Ah oui, on peut tout imaginer. Et trouver une tombe vide, il est ressuscité, mais en fait, non, il est dans la tombe d'à côté. On lit dans Luc, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. S'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Pour elles, elles avaient vu le tombeau, elles savaient bien, elles ne se sont pas trompées. Et puis d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 28, elles sont arrivées aussi devant un tombeau où il y avait des gardes. Donc c'était bien celui-là. On a pensé aussi que tous les disciples avaient pu être victimes d'une hallucination. Alors une hallucination à un endroit, à la rigueur, qu'une personne voit, mais une hallucination que plein de personnes voient à différents endroits, à différents moments, sur 40 jours, et parfois avec un grand nombre de personnes, ça c'est pas possible. À un moment, ils étaient 500 disciples en même temps, 500 personnes, et ils l'ont tous vu. Il a vu Thomas, il a dit « Mais mets ta main, vas-y, touche-moi ». Et ils étaient tous là à le regarder. Il est apparu aussi à Pierre, aux femmes qui ont voulu saisir ses pieds. Impossible. Alors, est-ce qu'il y a des preuves de la résurrection? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des preuves? Déjà, la réfutation de tous ces arguments peut constituer en soi une preuve. On ne peut pas prouver qu'il n'est pas ressuscité. Mais il y a quand même des éléments qui permettent de dire « Mais quand même, ça c'est une évidence ». Un élément qui est très important, qui constitue une preuve, c'est qu'à l'époque de Jésus, personne n'a contredit le fait de la résurrection. Personne ne l'a contredit. C'est quand même très très fort. Dans tous les écrits, personne ne conteste. Les apôtres ont prêché Christ ressuscité, personne n'a nié, il n'y avait pas de contradicteur. Si c'était un mensonge, les historiens n'auraient pas manqué de dire... C'est n'importe quoi parce que, voilà, on aurait donné des éléments. Il faut se souvenir aussi qu'il y avait plein de juifs religieux, des zélotes, des pharisiens qui étaient vraiment hostiles à Jésus. S'il y avait eu moyen de dire quelque chose, eh bien, ils l'auraient dit. Et Rome, son sceau est brisé. Même Rome n'écrit pas au sujet de Jésus-Christ pour dire ce n'est pas vrai. Imaginez que vous vous disiez ah ben mon voisin est ressuscité. Il faut le prouver, il faut le prouver. À ce moment-là, eh bien, on dirait bon, il y a quelqu'un qui est un peu fou, qui pense que son voisin est ressuscité. Il y aurait une enquête, la police, les journalistes. Ici, tout le monde s'est tu. Il n'y avait rien à dire parce qu'il était vraiment ressuscité. Et puis parce qu'il y avait trop de témoignages. Il y en a un qui disait « Il est vivant, je l'ai vu !» Il ne savait plus où donner de la tête. Une autre preuve, c'est évident, hein, on n'a pas pu produire le corps de Jésus. S'il y avait eu moyen, et je pense qu'ils l'ont cherché, hein, eh bien on aurait produit le corps pour dire « c'est pas vrai ». Et puis il y a aussi ces prophéties claires. D'abord Jésus lui-même. Jésus dit qu'il va ressusciter. Quand on lit dans Jean 2, 19 à 22, Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, il parlait de son corps, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, ils pensaient que c'était le temple de Jérusalem, et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus a annoncé, il a dit « je vais mourir et je vais ressusciter ». Et quand on prend l'Ancien Testament et qu'on lit des paroles des prophètes qui ont été écrites des centaines de siècles, 700 ans avant Jésus-Christ, hein, déjà la mort et la résurrection étaient prophétisées. Par exemple en Ésaïe 53, il est dit « après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, l'Église, et il prolongera ses jours. » Il ressuscitera, tout simplement. Et si on croit à cette prophétie qui dit que Jésus a livré sa vie en sacrifice pour le péché, on est obligé de croire à la fin de la prophétie qui dit qu'il ressuscitera, il prolongera ses jours. Après, on peut voir aussi une preuve forte dans la transformation des disciples. On a dit que la crucifixion, au moment de la crucifixion, ils étaient apeurés, ils étaient tremblants, ils étaient craintifs, ils se sont enfuis, ils l'ont même renié pour Pierre. Mais après, il y a eu une transformation radicale dans leur comportement, dans leur vie, dans leur personne. Il y a eu quelque chose qui leur a donné des ailes. Quand on regarde dans le livre des Actes, ce Pierre qui l'a renié devant une femme qui n'a pas osé dire « Mais oui, bien sûr, je suis son disciple. » Et bien juste après, quelques jours plus tard, en Actes 2, 14, je vous lis, « Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix, il leur parla en ces termes. » Et là, il est devant des milliers de Juifs. Et il dit « Homme juif !» Quel témoignage ! Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il continue, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Quelle assurance! Quelle audace! Qu'est-ce qui a pu donner un tel courage à ce Pierre qui était tremblant? Eh bien, c'est d'avoir vu Jésus. Hein, vous savez, pour avoir une telle audace, il faut l'avoir vu. Et si vous l'avez vu, ben, croyez-moi, vous le dites. Hein, aucun doute. Hein. Si c'est vrai dans votre vie, vous le proclamez. Vous proclamez, il est ressuscité. Un peu plus loin, Pierre écrira dans son épître « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Pierre a vu la majesté de Christ ressuscité de ses propres yeux. Alors, et bien après, il l'a dit. Une autre preuve qui est forte, c'est l'abnégation complète des disciples pour prêcher la résurrection. Ils n'ont pas fait cas de leur vie. Il y a un homme qui s'appelle Paul Little. Il a dit, L'homme, écoutez bien ça, l'homme mourra pour ce qu'il croit être vrai, même s'il se trompe. Mais il ne mourra jamais pour ce qu'il sait être un mensonge. C'est une évidence. Vous n'allez pas livrer votre vie si vous savez que c'est complètement mensonger. Et la plupart des disciples sont morts pour lui. Selon les historiens et la tradition, ils sont morts pour Jésus ressuscité. Pierre aurait été crucifié la tête en bas. André aurait été crucifié. Jacques, fils de Zébédée, tué par l'épée. Jean est mort d'une mort naturelle, mais en exilé, sur une île, par Domitien. Philippe a été crucifié, tout comme Barthélemy. Thomas fut transpercé par une lance. Matthieu fut tué par l'épée. Jacques, fils d'Alphée, fut crucifié. Thaddée fut percé par des flèches. Simon le Zélote fut crucifié. Paul fut décapité. Et à leur suite, on l'a lu tout à l'heure, Joseph nous l'a lu, des milliers de chrétiens ont vécu le bûcher, ont été brûlés dans les jardins de Néron, ont été déchirés par les lions et ont vécu tout cela parce qu'ils croyaient en la résurrection. Jamais ils n'auraient livré leur vie s'ils n'y croyaient pas. Ils en étaient convaincus. Enfin, l'existence de l'Église de Jésus-Christ, c'est une preuve aussi de la résurrection. Les empereurs de Rome, pas tous, mais beaucoup, voyant qu'ils ne pouvaient pas juguler, enrayer les conversions qui se faisaient par milliers, pour Christ, mort et ressuscité, ont décidé de les persécuter à mort dans tout l'Empire. Et plus il est persécuté, plus il se multipliait. Et l'Église a pris un essor pendant 3 siècles, non pas par la force et l'épée, mais par l'amour et par le témoignage. S'il y avait eu la moindre preuve contre la résurrection, le moindre doute quant à son authenticité, le plus petit témoignage démontrant qu'il s'agissait d'un mensonge, il n'y aurait plus d'église aujourd'hui. Elle se serait éteinte d'elle-même. Et puis, voilà, ce serait terminé. Mais aujourd'hui, on continue à célébrer notre Seigneur ressuscité. Il y a plusieurs hommes qui ont même voulu s'attaquer à la divinité de Christ et à sa résurrection, mais en voulant être des ennemis, ils ont fini par capituler et reconnaître, mais oui, Jésus est ressuscité. Parce que si on cherche honnêtement la vérité, on arrive à cette conclusion. Par exemple, il y a Simon Greenleaf, professeur de droit à Harvard, 1833 à 1948. On disait de lui que c'était le plus grand spécialiste des preuves légales de toute l'histoire. En ayant examiné minutieusement les faits, l'historicité, les lois, etc., scientifiques, il est arrivé à la conviction de la véracité de la résurrection. Il y a un autre homme qui s'appelle Frank Morrison, un homme de loi britannique. Il a voulu écrire un livre contre la résurrection. Mais après avoir fait des recherches, il est arrivé à la même conclusion, oui, Christ est ressuscité. Son livre s'intitula « Qui a transporté la pierre ?» en anglais. Il y a une traduction, je crois que c'est mythe ou vérité, la résurrection, mais qui a transporté la pierre? Et vous savez, le premier chapitre s'intitule « Le livre qui refusait de se laisser écrire ». Il voulait écrire contre, il n'a pas pu. Et puis il y a un autre que l'on connaît, avec, vous savez, ce film Ben-Hur, c'est Lee Wallace, qui voulait aussi écrire contre Jésus-Christ. Et finalement, il a fait un chef-d'œuvre. À l'issue de ses recherches, Wallace proclame au contraire que Christ est véritablement Dieu incarné, mort pour nous, ressuscité d'entre les morts. J'aimerais prendre 2 versets pour terminer. Premier, c'est celui-là. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Où en êtes-vous ce matin ? Est-ce que vous croyez cela ? Vous savez, parfois, on porte une petite croix où on l'accroche, ici, comme on l'a accroché au mur. C'est le souvenir de sa mort. Souvenir que le pardon de nos péchés nous a été accordé parce qu'il est mort sur la croix. Mais on pourrait aussi avoir un petit pendentif représentant un tombeau ouvert. La résurrection, finalement. La vie. La foi en la résurrection est tout aussi importante que la foi dans la mort de Jésus-Christ. Sans la résurrection, il n'y a pas de vie nouvelle. Sans la résurrection, il n'y a pas d'église. Est-ce que vous savez que c'est un dimanche que le Saint-Esprit est descendu à Pentecôte et a baptisé finalement les croyants? C'est un dimanche. C'est le commencement de l'église de Jésus-Christ. Là, ce jour-là, la vie du ciel est venue couler dans le cœur des disciples. Quand on se fait baptiser, c'est l'image de la mort, de l'ensevelissement, et c'est l'image de la résurrection. Quand on se relève, c'est la vie nouvelle. Il nous donne une vie pour sa vie, sa propre vie, nous la donne. Quand Paul dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais sans la résurrection, eh bien, la vie du Fils de Dieu, elle ne pourrait pas être en moi. C'est par la résurrection que « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On met aussi l'accent sur la croix parce que c'est là où il a versé son sang pour nos péchés. Ça, c'est une vérité. Mais ce sang précieux n'aurait pas pu être présenté au Père si Christ n'était pas ressuscité. Parce que c'est parce qu'il est ressuscité qu'il est rentré dans le sanctuaire céleste. C'est là où il a présenté son sang. C'est là où il a fait l'expiation de nos péchés. Et c'est là où Dieu nous a fait descendre la vie, l'a fait couler en nous. Et donc la résurrection, mais c'est aussi la clé de voûte, hein. C'est central. Il est écrit dans Romains 10, verset 9, hein. Vous pouvez le prendre si vous voulez, ou François peut peut-être l'afficher, Romains 10, verset 9. Il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Dieu nous demande deux choses ici. D'abord, confesser le Seigneur Jésus. Le verbe grec ici pour confesser, c'est confesser, dire ouvertement, déclarer, reconnaître, affirmer, faire profession, mais c'est aussi dire la même chose qu'un autre, être d'accord avec. Donc confesser le Seigneur Jésus, c'est prendre position ouvertement, publiquement, accepter finalement d'être pleinement associé à Jésus. Je le dis, je suis associé, je lui appartiens. Oui, je suis chrétien. Oui, je crois au Seigneur Jésus. Et vous savez, le baptême public, c'est un moyen de confesser ouvertement Jésus-Christ. C'est dire, je n'ai pas honte de lui, il m'a sauvé. Je suis mort avec lui, je veux vivre maintenant pour lui. Et ensuite, il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et là, on est dans la sphère invisible. C'est la sphère privée. Parce que vous savez, on peut très bien faire quelque chose de public, mais dans le cœur, c'est pas ça. Certains, vous savez, ils ont été baptisés, même deux fois, parfois trois fois. Mais la réalité, c'est que dans leur cœur, c'est pas ça. Et là, c'est Dieu qui voit dans le cœur. Il n'y a que lui qui peut voir vraiment dans le cœur si effectivement nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Si nous croyons et si nous l'avons saisi pour notre Sauveur, notre Seigneur. Je crois qu'il est mort pour moi, mais je crois aussi qu'il est ressuscité pour moi et qu'il fait couler la vie dans mon âme. Et ça sera un jour pour me ressusciter avec lui. C'est central. Jésus dit, crois-tu cela ? Est-ce que tu le crois vraiment, au fond de toi-même ? On va s'incliner dans la prière.